Alors, la science-fiction française. Alors, merci beaucoup. Que j'ai une petite idée de la chose, est-ce que vous en avez les uns les autres une connaissance ou est-ce que vous venez pour justement acquérir cette connaissance? Est-ce que vous en savez des choses? Un petit peu? Non, mais parce que vous pourriez ne rien savoir du tout. Voilà, c'est pas du tout un problème vu que c'est justement une science-fiction relativement mal connue, même par les amateurs. Alors. On y va. Voilà.
Je connais des noms, mais je ne les ai pas lus, donc
Voilà. Bon, ben, on va. Je vais préciser un peu votre éventuelle liste de lecture. Il y a un machin pour. Non, ça, c'est un enregistreur, d'accord? Okay. Il n'y a pas de petit clic. Alors, donc, évidemment, pour ceux qui ont des connaissances, vous ne. N'aurez pas ici la totalité des auteurs. Hein. Donc, s'il y en a un que vous connaissez et appréciez que je n'en parle pas, bah, on en parlera éventuellement dans les questions ultérieures. Mais fondamentalement, il est impossible évidemment de couvrir les milliers de volumes et les dizaines d'auteurs qui existent en une heure. Le but en fait de cette présentation, c'est finalement de vous donner des éléments sur l'histoire de la science-fiction française. Science-fiction que je vais commencer par délimiter à peu près, mais pas définir, évidemment. Hein. Fondamentalement, la science-fiction française, je la situe personnellement, c'est une position personnelle, je la situe à la convergence de deux traditions. C'est-à-dire que il y a plusieurs lectures et plusieurs manières de parler de science-fiction. Vous avez probablement votre propre perception, votre propre définition. Même si vous ne vous embarrassez pas de théorie, vous avez éventuellement une certaine vision de ce que ça peut être. Historiquement, il me semble qu'on peut repérer en fait une convergence entre une première tradition qui est ce qu'on pourrait appeler une écriture conjecturale. Alors je reprends le terme à Pierre Versin. Hein, j'en utilise de nombreux autres dans mes propres recherches. Celui-là est assez évocateur et plus efficace à court terme. Donc l'écriture conjecturale anglo-française. Alors j'en suis venu à l'idée, alors c'est par des discussions, j'ai pas encore précisé tout à fait ça, mais je me suis un peu rangé dernièrement à l'idée que au départ, ce qui s'écrit, qu'on peut appeler anticipation, qu'on peut appeler merveilleux scientifique, qu'on peut appeler de nombreux noms, mais certainement pas au départ celui de science-fiction, sauf rétrospectivement, que ce qui s'est écrit en France, en gros à partir de Jules Verne, hein, et jusqu'à l'arrivée de la science-fiction anglo-saxonne, véritablement constituée, américaine en grande partie, à partir des années 50 en France, 1950, tout cela, on peut considérer que c'est en grande partie une tradition anglo-française, non pas spécifiquement française. Mais bien anglo-française. Alors pourquoi anglo-française? Parce que, ou franco-anglaise, hein, j'ai pas de préférence. Eh bien parce que, en fait, au départ, on a disons, la figure de Verne, hein, qui est plutôt orientée du côté des voyages extraordinaires, de l'anticipation à court terme, l'anticipation technique. Vous avez évidemment plein d'exemples qui vous viennent en tête, avec comme particularité, mais c'est pas une particularité spécifiquement vernienne, mais un modèle qui est celui de ce que Gérard Klein appelle l'anticipation dans le présent, c'est-à-dire le fait que la merveille scientifique disparaît. Il n'est pas question de présenter une modification d'ampleur et durable de la société. Mais ce modèle-là, bon, évolue au fur et à mesure, ce qui se passe également, c'est que, donc là, on a une évolution, disons, plutôt française, sans forcément trop d'influence extérieure, pendant une quarantaine d'années. Et en fait, l'irruption de Wells, et donc d'une certaine tradition anglaise, a un effet absolument énorme sur la production française. Parce que, en fait, tout d'un coup, il devient une sorte de nouveau paradigme. Tout d'un coup, ce qu'il présente est absolument formidable. Et alors, en fait, il intègre, il ajoute à la thématique générale du progrès, qui est celle de Verne, progrès qui peut être interprété de façon plus ou moins optimiste ou pessimiste, il ajoute une thématique qui était très peu présente, pas absente, mais très peu présente dans la littérature française, qui est celle de l'altérité. En gros, l'extraterrestre, ou le descendant Morlock ou Elohim, le descendant de l'homme transformé, le mutant. Bon. Cette vision-là, c'est une vision qui n'est quasiment pas présente dans la littérature française avant Wells. Et ça fait un certain bouleversement, ça ajoute des thématiques. Et alors, ce qui est assez spécial, mais ce n'est pas le sujet de ce que je vais dire aujourd'hui, mais ce qui est assez particulier, c'est que finalement, bon, c'est presque abusif de parler traduction anglo-française parce qu'il n'y a pas de dialogue, à proprement parler, entre les auteurs français et les auteurs anglais. Et en fait, c'est plutôt que les auteurs français relisent à leur propre manière et réutilisent des choses introduites par Wells, et un certain Wells, c'est-à-dire qu'en gros il s'arrête en 1910 à peu près, c'est-à-dire que tout ce que Wells a pu écrire entre 1910 et 1930 et jusqu'à sa mort, bon, a très peu finalement d'influence sur ce que font les auteurs français. C'est pas inconnu, c'est pas non publié, mais ça a beaucoup moins d'importance que ses premières œuvres absolument fortes que sont La Guerre des Mondes, le Docteur Moreau, enfin, ce genre de texte qui justement présente au départ très fortement l'altérité. Et toutes les réflexions très politiques qu'il peut faire ensuite ne sont finalement pas tellement prises en compte. Et donc c'est l'influence de Wells dans la tradition française. Et donc, Convergence, on aura des quelques noms, quelques éléments après, mais convergence avec une autre écriture, l'écriture conjecturale, plutôt, alors cette fois anglo-américaine, donc d'une certaine façon elles ont déjà un peu convergé, puisqu'il y a l'Angleterre entre les deux, il y a une certaine tradition, et notamment Wells qui est une référence commune, et Verne aussi qui est une référence commune, bon, pour cette écriture anglo-américaine. Ça, c'est pas mon sujet, et puis j'en ai pas forcément tout à fait la compétence, hein, de vous reprendre la façon dont ce qu'on a progressivement appelé la science fiction, qui au départ était la scientifiction, enfin bon, il y avait toutes sortes de choses, de la manière dont ça s'est développé, mais je retiendrai deux choses. D'abord, deux dynamiques, la dynamique Gernsback, la dynamique Campbell. Donc, deux dynamiques qui se sont plus ou moins succédées. La dynamique Gernsback, c'est une dynamique qui au départ est une dynamique de représentation du progrès, d'ailleurs très vernienne hein, au départ, Verne est une référence pour Gernsback, la représentation d'un progrès qui est un progrès technique. C'est au départ quelqu'un qui veut faire de la vulgarisation et faire des bons récits avec de la vulgarisation. Et, et donc cette dynamique-là, en fait, elle donne lieu progressivement par le biais du marché des pulps, elle donne lieu à finalement des récits qui sont progressivement des récits d'aventure et avec justement on va cette idée du progrès positif. Mais la différence fondamentale entre la dynamique Gernsback et l'anticipation dans le présent dont je parlais pour les Français, et c'est à la racine, pour moi, du problème qui fait qu'on ne peut pas dire que ce soit deux traditions absolument équivalentes, c'est que la dynamique Gernsback fait qu'on a un processus cumulatif. Les merveilles imaginées dans une histoire peuvent tout à fait être reprises dans une autre. Et là, vous voyez ce qui est à la racine de ce qu'on considère comme la science-fiction actuelle, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un ensemble de thèmes communs qu'on peut récupérer et réutiliser. Du côté français, je ne développe pas, mais du côté français, on reste hanté pendant très longtemps par l'idée du plagiat. C'est-à-dire que si quelqu'un reprend une idée qu'on a soi-même traitée, on peut éventuellement l'accuser de plagiat. Et ça reste actif dans la France après 1950, c'est-à-dire même face à la science-fiction. Bon, actif, il n'y a pas de procès, mais il y a des critiques sur l'idée que quelqu'un a réécrit, repris telle chose. Donc ça c'est la dynamique Gernsback. La dynamique Campbell, c'est une dynamique qui essaye de faire en sorte de réorienter les récits de manière à les rendre le plus plausible possible et le mieux composé possible. C'est-à-dire, en termes d'écriture, on va vers l'idée qu'on ne peut pas accepter n'importe quoi comme texte. Et donc vers une dynamique qui est de moins en moins littérature populaire. Et de plus en plus, bon, littérature écrite au sens très large, parce qu'il y a évidemment toute une gamme possible, mais l'aboutissement de cette dynamique, ça n'est pas Campbell en tant que tel, enfin, je veux dire, l'aboutissement pour l'histoire que je raconte, c'est deux publications, ces deux revues, le Magazine of Fantasy and Science Fiction et Galaxy Science Fiction, qui sont pas des journaux de Campbell, mais c'est des revues qui prennent la suite en quelque sorte et qui présentent des auteurs et des textes qui sont des textes relativement, enfin disons, plus élaborée et beaucoup moins tournée vers la science dure. D'ailleurs, c'est à peu près l'époque à laquelle les gens vont commencer à dire « la hard science est en train de mourir ». Bon, bref, c'est-à-dire plus vers des soft science, de la soft science fiction. Et c'est ce type de récit qui est le traduit en majorité en France. C'est-à-dire que ce qui, donc la convergence qu'on a là, je vais vite, hein, parce que c'est pas encore une fois mon propos, mais la convergence qu'on a, c'est une certaine tradition française qui s'est faite et qui s'est en gros articulée autour de deux grands pôles, le pôle du progrès et le pôle de l'altérité, donc l'altérité problématique, c'est-à-dire on rencontre des créatures qui sont négatives et qu'il faut tuer, détruire, ou qui vont nous détruire nous-mêmes. Et de l'autre côté, une écriture qui est fondée sur l'idée d'accumulation des merveilles et sur l'idée d'exploration des conséquences pour les sociétés humaines, d'exploration pour les individus. Ces deux choses-là se rencontrent. Alors, donc du côté français, on a ces noms-là. Bon, je ne vais pas développer en fait parce que j'aurai pas le temps, donc je préfère avancer. Et de ce côté-ci, on a d'autres noms là-dessus. Et la rencontre qu'on a là-dessus, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus, parce que c'est notre sujet, c'est les auteurs français. Alors, quelques noms, on en reverra un certain nombre tout à l'heure. Quelques noms d'auteurs français. Alors, là, je n'ai pas cité tous les auteurs, évidemment, en français de science-fiction, mais ceux qui sont des passeurs, en quelque sorte. C'est-à-dire, ce sont les individus qui ont lu des auteurs français de la tradition précédente, auteurs qui, pour la quasi-totalité d'entre eux, n'écrivent plus après 1950. Il faut se dire que la tradition française s'éteint au sens où les auteurs cessent de publier. Une exception majeure étant Barjavel. Mais Barjavel, qui écrit, qui est à toute fin de cette tradition, et qui cesse à peu près d'écrire de la science-fiction entre, en gros, 1949 et 1978. Je ne me souviens plus de date, 1973. Non, 1973. Donc, il y a un gros hiatus dans la production de Barjavel. Il produit d'autres choses, il écrit d'autres choses, mais un gros hiatus dans ce qu'on peut appeler la science-fiction. Tous les noms qu'on a là sont des noms qui ne sont pas des noms transférables sur la science-fiction qui se fait. Donc, elle se fait en quelque sorte à neuf. À neuf sur un terreau qui existe déjà. C'est-à-dire que Philippe Curval, Gérard Klein, Francis Carsac, enfin, tous ces noms-là sont des gens qui ont lu Maurice Renard, Spitz, Barjavel, ils ont lu. Donc ils voient ce que ça veut dire que de faire de la conjecture comme ça, mais ils lisent aussi et ils sont enthousiastes en lisant Asimov, Van Vogt, Heinlein, Bradbury, Clarke, et auteurs qui pour beaucoup d'entre eux sont des auteurs relativement récents dans l'histoire américaine elle-même, c'est-à-dire que ce sont des auteurs des années 40 pour l'essentiel, et la plupart de leurs textes publiés en France sont des textes récents, ce qui veut dire qu'on a en fait d'une certaine façon, ce qui se crée à la convergence là, c'est la convergence de, disons, de deux amnésies sélectives. C'est-à-dire qu'on a finalement deux manières d'envisager la conjecture, et ces deux manières-là s'harmonisent dans un ensemble de textes. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est-à-dire qu'il y a cette mémoire et amnésie qui intervient, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que il y a un énorme désavantage à vouloir, à cette époque-là, symbolique, dans les années 50, un énorme désavantage à vouloir faire de la science-fiction qui ne soit pas de la science-fiction à l'américaine. Il y a une valorisation extrême du fait que les Américains savent mieux faire que les autres. Cette valorisation, vous la retrouvez encore maintenant, et elle est fondée pour beaucoup de raisons. Il y a effectivement d'excellents auteurs, d'excellents textes, et en un sens, ce sont eux qui posent, enfin pour beaucoup, les étalons, les talons de référence. Mais il y a ce problème symbolique. Alors, un exemple de convergence que je décris rapidement, ce Nulle part de Francis Carsac. C'est le premier roman. Alors, il y a eu des romans, on y reviendra un tout petit peu tout à l'heure, il y a eu des romans français parus dans des collections françaises de science-fiction avant celui-là, puisque dès 1951, il y en a. Alors, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant pour celui-là, c'est que c'est le premier roman paru dans une collection française de science-fiction, donc le Rayon Fantastique, chez Gallimard et Hachette, qui paraît dans une collection qui jusque-là ne faisait paraître que des auteurs américains. Des auteurs américains dont je parlais, Van Vogt, Asimov. Bon. C'est-à-dire que c'est le premier auteur français qu'on estime être susceptible de prendre place dans le courant américain. Alors que l'autre secteur de publication à ce moment-là, puisqu'on est juste avant la présence du futur, je parlerai des collections, vous avez une idée des collections françaises, ou il faudra que je les présente. Je les présenterai un petit peu, mais Autant me dire, non mais autant me dire, si vous avez besoin de, d'ailleurs, si, je parle vite et j'ai beaucoup de choses à présenter, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a besoin à un moment ou à un autre, et je vous donnerai de toute façon la parole. Donc, c'est le premier français qui soit publié dans une collection qui n'accepte au départ que des Américains. Et son roman est très à l'américaine, c'est-à-dire que nous avons une présentation. François Borde, qui écrit sous le pseudonyme Francis Carsac, est un lecteur depuis 15 ans de magazines américains de science-fiction. Il est abonné, donc il la connaît depuis longtemps, cette littérature. Et c'est aussi quelqu'un qui est un admirateur affirmé des auteurs français. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a la convergence des deux. Et il fait un roman à l'américaine, au sens où il nous présente une guerre galactique, thématique qui n'était pas du tout présente comme telle chez les Français, guerre contre des créatures extraterrestres méchantes. Bon, vous avez une logique comme ça. Mais ces créatures extraterrestres méchantes rappellent très fortement des créatures qui sont des créatures développées, et de façon assez spécifique, dans la tradition française. C'est-à-dire des choses qu'on ne retrouve pas tellement dans la tradition américaine, c'est-à-dire que ce sont des créatures essentiellement, enfin, qui sont des créatures essentiellement minérales, inorganiques en fait, en quelque sorte, et qui vivent dans des environnements en détruisant en fait les conditions de vie des organiques. C'est-à-dire que c'est des créatures qui sont incompatibles, dont le règne biologique, enfin, non biologique, enfin, dont le règne est incompatible avec celui des êtres organiques. Or, cette incompatibilité-là, elle a été développée dans un ensemble de récits par Rony Aîné. Rony Aîné qui a développé dans plusieurs romans, notamment La mort de la Terre et un autre roman qui s'appelle Les navigateurs de l'infini, qui d'ailleurs sera réédité dans le rayon fantastique quelques années plus tard. Il y a cette image de créatures qui sont d'un autre règne, qui remplacent par leur seule présence, en quelque sorte, les autres. Donc, et cette logique-là a été développée, poursuivie par d'autres auteurs. Donc c'est une thématique. Donc il prend comme extraterrestre des créatures qui sont inspirées clairement par la tradition française, mais dans un cadre de ligue intergalactique et de contact avec les extraterrestres qui, eux, organiques, qui font voilà, une ligue des nations extraterrestres en quelque sorte, qui est tout à fait inspiré de ce qui a pu se faire dans le space opéra des années 30 aux États-Unis. Une particularité aussi, mais ça je vais y revenir après, ça s'intègre dans un paradigme dont je vais parler ensuite. Un exemple. Alors, quelques points de repère. Donc, la science-fiction française, c'est des hauts et des bas. Donc, je commence en 1950, comme vous l'avez saisi, pour la raison que j'évoque, pour parler de science-fiction. Je situe, comme vous voyez à peu près, plusieurs générations. Génération ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a une génération que forcément il y a disparition des précédents, hein. Mais en gros c'est différents élans. En gros, vous avez une première période féconde dans les années 50, qui se développe vraiment au début des années 60 en fait. Je redonnerai quelques détails ensuite. Une deuxième génération dans les années 70. Ensuite, cette génération, elle dure un certain temps. Il y a des auteurs majeurs pendant un certain temps. Et ensuite, les années 90, voient un renouveau encore du personnel de ce point de vue-là. Et alors, j'aurais du mal, parce qu'on est dans l'ultra-contemporain, j'aurais du mal à situer exactement comment situer actuellement la génération actuelle. Mais ce qui est sûr, c'est que malheureusement, comme le décès de Dayardal nous l'a rappelé récemment, la génération des années 90, elle disparaît pour un certain nombre d'entre eux. Bon. Alors, donc, premier temps, en quelque sorte, vous avez un grand moment de création de collections et de revues, je vais y revenir juste après, et les premiers auteurs qui deviennent des auteurs des classiques, en fait. C'est-à-dire des gens qui sont réédités constamment. Carsac, Bull, Klein, vous en avez d'autres potentiellement, mais alors je ne sais pas si d'ailleurs, petit test, est-ce que vous connaissiez Francis Carsac avant que j'en parle, est-ce que vous connaissiez Stéphane Bull, et est-ce que vous connaissez Gérard Klein? Oui, bon, voilà. Donc, mais ces auteurs-là sont des auteurs qui écrivent dans les années 50 et qui sont des classiques pour des raisons. Et après, le terme classique, quoi. Mais ce sont des individus qui deviennent des références ensuite qui sont rééditées. Vous avez un temps ensuite, un temps vraiment qui pouvait faire craindre, honnêtement, une mort de la science-fiction française. C'est vrai. Oui.
Je
Oui. Il y avait beaucoup d'éditions à cette époque-là.
Je vais y revenir. D'éditions, c'est-à-dire de collections ou de...
Oui, voilà, de l'édition de la SF.
Ouais, je vais en parler juste après. Là, c'est des points de repère, mais effectivement, j'enchaîne sur les revues et les collections ensuite, et après, je parlerai. Mais effectivement, c'est une bonne question. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a 3-4 collections majeures, et d'ailleurs, la disparition de l'une d'entre elles, le rayon fantastique que j'ai déjà mentionné en 1964, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le débouché principal à ce moment-là pour des auteurs variés en fait disparaît, puisque la collection Anticipation du Fleuve Noir c'est un débouché pour des auteurs français tout à fait qui à ce moment-là c'est vraiment fonctionne avec très peu d'auteurs en fait et très peu de nouveaux auteurs en fait justement ils en intègrent à partir de là, c'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles la science-fiction française se maintient, c'est notamment parce que en grande partie Anticipation incorpore un certain nombre d'auteurs, ceux qui, en fait, je parle d'effacement de la première génération, il y a beaucoup d'auteurs qui ont complètement arrêté. Et il y en a pour lesquels il y a eu un hiatus. Par exemple, Nathalie Enberg, elle a publié le dernier roman, d'ailleurs, du rayon fantastique. Et ensuite, il s'est passé presque 15 ans, plus d'une dizaine d'années, avant qu'elle republie quelque chose. Elle est revenue, mais très peu, finalement. Et à côté de ça, quelques auteurs du rayon fantastique sont entrés dans le fleuve noir Anticipation, mais globalement, vous avez eu une disparition de plumes de différents auteurs, qui d'ailleurs ne sont pas des auteurs absolument majeurs, dont on pourrait absolument citer les noms en disant « mais quelle perte extraordinaire !» Mais ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas fait leur preuve sur un ou deux romans qu'ils avaient commencé qu'ils n'avaient pas... une possibilité ensuite, mais ils se sont tournés vers d'autres activités, ça ne payait pas du tout, ça s'est complètement cassé la gueule, l'édition c'est... et à cette époque-là, j'y reviendrai pas vraiment, mais quand on regarde les publications, entre 1965 et 1969, en gros, pendant 5 ans, 5 années pleines, eh bien, vous avez quasiment aucune publication de français, il n'y en a aucune dans le présent du futur, ne publie pas de français entre 65, enfin de romans. Il y a peut-être un recueil de nouvelles, je ne me souviens plus par cœur, mais il ne publie plus de français pendant 5 ans, jusqu'à Andrevon, en fait, Les Hommes-Machines contre Gandahar, et vous n'avez aucun débouché. Et même fiction, en gros, se fait l'écho, donc la revue fiction, dont je reparlerai tout à l'heure, mais que vous connaissez évidemment, j'imagine, même la revue fiction se fait l'écho du fait qu'ils ne trouvent pas de bons textes. Il y a une crise de la science-fiction française, l'article signé Gérard Klein, où il met les pieds dans le plat en disant que, en gros, tout le monde est mauvais et que les auteurs n'ont que ce qu'ils méritent. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est quand même. Enfin, il enchaîne quand même sur le fait qu'il crée une collection Ailleurs et Demain dans laquelle il donne la possibilité aux auteurs français de faire leurs preuves. C'est-à-dire qu'il tire les propres leçons. Mais en tout cas, clairement, vous avez des débats dans fiction. Qui aboutissent un peu à dire la science-fiction française finalement ça n'a pas décollé, ça ne marchera pas, voilà. Mais ce pessimisme heureusement est de courte durée et là nous avons au contraire une période qu'on pourrait estimer être un âge d'or de la science-fiction française. De très nombreux points de vue, il y a de très nombreuses collections, certains ont dit trop, mais je ne crois pas que ce soit le problème parce qu'il n'y a pas cette inflation de collections s'accompagnait de ventes faramineuses. Il y avait des chiffres de vente qui sont délirants, qui se comptaient en dizaines de milliers d'exemplaires, 100 000, voire plus de 100 000, et ce n'était pas considéré comme des best-sellers. On n'était pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous aviez couramment des tirages absolument exceptionnels. Tirages qui, évidemment, ont diminué avec le temps et les structures de l'édition, puisque dans l'édition actuellement, de toute façon, la plupart des tirages sont quand même assez, assez faibles, mais les tirages dans l'édition science-fiction française est assez faible, très faible aussi. Donc, vous avez donc des ventes importantes. Les premiers festivals, les premiers grands éléments de convention tout, qui se mettent en place, je ne détaille pas, mais il y a cette sociabilité-là qui naît vraiment à ce moment-là et qui n'a pas cessé, et donc dont les Utopiales sont un des héritages. C'est pas à cette époque-là, mais c'est... Ça a poursuivi ça. Les auteurs majeurs, on a parlé de Jury, vous avez vu, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous avez entendu parler de Jury, et vous connaissiez déjà, je pense. Philippe Curval, qui publie pas mal à ce moment-là, effectivement. De toute façon, il a publié sur toute la période, il publie encore maintenant. C'est un de ceux qui font vraiment le lien d'un bout à l'autre de ma flèche. Pierre Pelot, par exemple. Et donc, ensuite, les années 80, on a une faiblesse du marché qui fait que les ventes s'effondrent, les collections périclitent, et seules les plus solides, celles qui sont vraiment adossées à des éditeurs solides, se maintiennent. Donc notamment des collections de poche. Et c'est aussi, en 1990, la disparition de la revue Fiction, que je n'avais pas cité en tant que telle, mais qui est un de mes points de repère importants des années 50, évidemment. J'en parlerai tout de suite après. Et donc, ensuite, on a, dans les années 90, à nouveau un renouveau. Donc, vous savez, c'est assez facile de se souvenir, finalement, parce que, en gros, pour simplifier, c'est de toutes les décennies impaires, ça monte, et toutes les décennies paires, ça baisse. Bon. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, ça ne se colle pas tout à fait aux décennies. Mais... Voilà, donc là, ça va mieux. Ça va mieux. Au milieu des années 90, clairement, c'est reparti. C'est-à-dire que vous avez des nouvelles revues, Bifrost, Galaxy, bon, donc des revues qui existent encore sous différentes formes actuellement, des auteurs majeurs, bah, Lehmann, Wagner et Gerdal. Je parlais de disparition, Wagner aussi nous a quittés. Bon. Ensuite, à partir des années 2000, bon, c'est difficile, hein, de parler d'ultra contemporain. Il y a un discours pessimiste qui existe, je suis un peu plus en demi-teinte, c'est-à-dire que oui, il y a une concurrence d'autres littératures, ce qu'on appelle littérature de l'imaginaire, l'essor de la fantasy et de tous ces avatars divers. Vous avez des collections qui disparaissent, collections historiques, anticipation et présence du futur, mais d'un autre côté, d'autres collections naissent quand même. Vous avez l'une d'encre qui ne remplace pas exactement présence du futur, mais bon, ça existe. Vous avez des ventes qui sont faibles, mais quand même une vive vigueur importante que vous pouvez constater vous-même en allant dans la librairie en bas, et un maintien, un enrichissement de la sociabilité de la SF. Donc ça, c'est la science-fiction française en général. Et alors, dans les lieux de vie et de sociabilité, alors j'avance parce que vous avez donc toute cette liste-là, mais ça, vous pouvez la trouver par ailleurs. Fiction, donc référence historique qui sert de colonne vertébrale, véritablement de 1950 à 1990, enfin, 53-90, colonne vertébrale qui souvent plie un peu, hein. C'est pas toujours facile, le grand âge dans les années 80 ça devient vraiment difficile, mais quand même qui résiste bien. Et vous avez en fait toute une petite histoire que je ne referai pas ici de revues qui apparaissent, disparaissent, qui publient plus ou moins des nouvelles d'auteurs français, mais le plus souvent on publie quand même des nouvelles d'auteurs américains, y compris fiction. Donc bon, il y a un banc d'essais, surtout dans fiction, pour des auteurs français, mais globalement, il n'y a quand même pas beaucoup de lieux pendant très longtemps où publier des choses. Donc, bon, j'avance parce que c'est du contemporain. Et évidemment, il ne faut pas oublier, et d'ailleurs, c'est de là que viennent la plupart de mes images, un site comme Noosphère, par exemple, qui est une très bonne source d'informations. 42, évidemment, des lieux de sociabilité, ActuSF ou autre. Bon, j'avoue que là, ce n'est pas forcément la peine de détailler. Pour les collections, quelques éléments rapidement. Vous avez eu en fait trois piliers. Alors il y a d'autres collections, hein. Il y en a, mais vraiment qui durent pas longtemps. Bon, il y a la collection Metal dans les années 50. Et là vous en avez trois vraiment qui sont des piliers au début. Donc Anticipation, je vais quand même le montrer. Anticipation, donc là c'est le premier, Les Conquérants de l'Univers, donc de Richard Bessières. Le Rayon Fantastique et Présence du Futur, qui pendant longtemps a ce design là avec l'ellipse allongée. Voilà. Vous avez également donc un renouveau important, donc avec notamment la collection Ailleurs et Demain, qui en gros, hein, sans exagérer son importance, c'est quand même une collection qui se lance, disons, à un moment où il n'y a plus rien du tout quasiment comme création, et qui lance un mouvement important parce que toute une série de collections se font dans la foulée. L'idée, c'est qu'il y a quand même, ça devient pendant très longtemps un marqueur de qualité. Hein, c'est un étalon de qualité. Et donc, vous avez de très nombreuses collections. Alors, je vais avancer là-dessus. Donc, il y a des collections contemporaines que vous connaissez. Je ne vais pas détailler La Dalente, Lune d'encre. Évidemment, vous avez. Il y a des niveaux différents là-dessus. Je ne détaille pas. J'aurais bien aimé, en fait, mais je me suis rendu compte... Déjà, là, je vois que je n'ai pas le temps de vraiment dire tout ce que je voudrais dire. Mais j'aurais bien aimé vous parler aussi de tout ce qui faisait la science-fiction française dans l'animation, les combats. J'ai parlé tout à l'heure de la crise de la science, de croissance de la science-fiction française. Bon, Y a eu des débats, des discussions à toutes les époques, à tous les moments où vous avez eu des gens pour affirmer que la science-fiction était morte, d'autres pour affirmer qu'ils avaient la clé de la meilleure science-fiction du monde. Vous avez eu ça énormément, peut-être moins maintenant. J'ai l'impression que ces débats-là, ils sont un peu moins actifs actuellement. Mais encore récemment, il y a eu ce grand débat sur la métaphysique dans la science-fiction qui avait occupé plein de temps, je ne détaille pas. Vous avez des discussions à toutes les époques sur ce que c'est que la science-fiction. Ça revient très souvent. Et c'est le signe d'un engagement et d'un intérêt intellectuel important. Alors, ça va ? C'est la fin de la journée. Voilà. Alors, j'en viens à une présentation des œuvres. Alors, c'est une sélection relativement, enfin, à la fois partielle et aléatoire. Et partielle. Mais l'idée générale, ce qui guide ma réflexion quand je travaille sur l'histoire de la science-fiction française, enfin, et l'histoire de la science-fiction en général, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'appliquer à une autre science-fiction de façon pointue, c'est l'idée que vous avez, selon les époques, ce que j'appelle, bon, c'est pas une innovation, mais des paradigmes dominants. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à un moment donné, même si ce n'est pas tout à fait partagé par tout le monde, hein, dominant ne veut pas dire exclusif, une certaine vision de ce que c'est que la science-fiction. Je le disais tout à l'heure, des débats, des discussions sur « oui, la science-fiction, c'est bon ». Alors, ça apparaît de façon évidente lorsque vous avez un courant qui s'impose. Le cyberpunk, à un moment donné, bon, les gens se disent « ah oui, c'est le genre de choses qu'il faut faire ou pas », d'ailleurs. Ils prennent position par rapport à ça. La New Wave, bon, les gens disent « ça, c'est le genre de science-fiction qu'il faut faire ». Vous avez ce type de courant. Et après, vous avez... l'idée aussi importante qui est de dire, mais finalement la science-fiction c'est un peu tout ça, c'est un peu tout un ensemble de thèmes qui peuvent être finalement actifs plus ou moins à tel ou tel moment. Il y a le voyage spatial, vous avez l'extraterrestre, vous avez l'anticipation sociale, les voyages dans le temps, bon, toutes sortes de choses, de thématiques qui sont comme dans une espèce de boîte à outils que les auteurs peuvent solliciter comme ils veulent. Bon, il y a cette idée-là. Cette idée n'est pas absurde. C'est-à-dire l'idée que finalement il n'y a pas de réalité historique nette de ces thématiques qui certaines apparaissent à un moment donné. On peut dire qu'effectivement on peut pointer le moment où on a vraiment intégré l'ordinateur, l'idée de la réalité virtuelle. On peut chercher des textes, parler de tel ou tel texte pour en parler et faire ensuite l'histoire éventuellement de la chose. Mais globalement, il y a cette idée que c'est une sorte, ce que Gérard Klein d'ailleurs appelle la grande mer d'idées de la science-fiction, où on va puiser, mais sans l'épuiser, justement. C'est quelque chose qui est désigné par un chercheur et écrivain qui s'appelle Damien Broderick. C'est désigné sous le nom de mégatexte, le mégatexte de la science-fiction. C'est une espèce de texte gigantesque dans lequel on peut aller prendre des références au fur et à mesure. Personnellement, j'ai une approche donc un peu plus, disons, historicisée, qui consiste à dire qu'il y a, à un moment donné dans l'histoire de l'édition, une certaine façon de faire de la science-fiction. Et qu'il y a une diversité qui se maintient, mais que vous avez quand même des éléments dominants et qu'on peut identifier en gros ce que ça signifie. Alors c'est plus facile, en un sens, avec la science-fiction française, si on lui donne, comme je le fais, un point d'origine, et qu'on étudie au fur et à mesure comment elle se construit. Bon. Il faut partir de quelque part. Et alors, dans les années 50, clairement, le voyage spatial, l'idée de l'envol vers l'espace est très important. Mais alors, si j'ai mis l'appel de l'espace, c'est pas pour faire un jeu de mots ou une allitération, c'est parce que, finalement, ce qui est représenté, c'est très peu une conquête de l'espace tranquille. Vous n'avez pas un empire galactique comme fondation, vous n'avez pas une conquête de Mars comme dans les chroniques martiennes, alors conquête à nuancer, mais quand même l'idée qu'on y va et puis ça y est, on fait ce qu'on a à faire. Vous avez l'idée que ce serait très bien d'aller dans l'espace si seulement on pouvait vraiment le faire. C'est-à-dire que vous avez pendant une certaine représentation de choses qui sont... Alors, après, vous avez des choses tout à fait... tout à fait net, comme Les Conquérants de l'Univers de Richard Bessières, donc un des premiers romans, on pourrait lui attribuer, il pourrait concourir pour être le premier roman de science-fiction français au sens que je donnais. c'est, bon là vous avez une exploration du système, alors l'univers, hein, c'est pas l'univers, mais c'est le système solaire, des gens qui sautent de planète en planète et qui voient des extraterrestres sur les différentes planètes. Donc c'est une petite exploration de ce point de vue-là. Je passe un peu vite, ce nulle part, je le redis. Alors juste pour repréciser par rapport à la question de l'appel de l'espace. Le point de départ, c'est que vous avez un héros qui est un héros terrien, français, un héros français qui est embarqué, plus ou moins son corps défendant, bon, par une suite de circonstances, qui est embarqué par des extraterrestres. Et la thématique de l'enlèvement d'extraterrestres existe, hein, à cette époque-là, de façon assez importante quand même. Je ne vais pas parler de Jimmy Gueux, mais si vous voulez avoir des choses sur l'enlèvement extraterrestre, allez lire Jimmy Gueux. Et il est incorporé au conflit galactique. Sachant qu'il est une espèce de représentant de l'espèce humaine, est-ce qu'on peut accepter l'espèce humaine ou pas? Il va falloir qu'on teste, qu'on voit si vous êtes des gens moraux, et ainsi de suite. Donc il y a cette idée-là. Et par ailleurs, il est incorporé au combat, puisqu'il se trouve qu'en tant qu'être humain, il a une composition particulière de son sang qui fait qu'il résiste très bien aux ennemis. Donc, vous reconnaissez des manières d'engager les choses, mais il n'empêche qu'il est tout seul. C'est un Français tout seul qui est incorporé au monde de l'espace. Et il revient à la fin du roman chercher, enrôler des gens. Il vient discuter avec... il vient chercher d'autres scientifiques, d'autres gens comme lui, pour les emmener dans l'espace. Mais individuellement, parce que la Terre n'est pas prête. Et j'ai tendance personnellement, alors c'est une interprétation peut-être un peu métaphorique, mais j'ai tendance personnellement à y lire un petit peu cette idée que, d'une certaine façon, la France, les Français ne sont pas prêts à partir dans l'espace. Et vous avez, pendant toutes les années 50, vous avez cette réticence, c'est-à-dire que oui, on parle d'espace, oui, on parle de voyage dans l'espace, mais on n'est pas tranquillement installé dans l'espace à faire plein de choses. Alors, dans les années 60, ça change. Là, on est clairement installé. Mais ça reste un petit peu réticent. Et quand vous voyez, par exemple, Hommes en série. Hommes en série, donc un roman Stéphane Hull, parmi d'autres, hein, j'aurais pu en citer d'autres encore. Hommes en série, vous avez une situation qui rappelle cette idée-là, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace, il y a des extraterrestres gigantesques, ce qu'on voit là, ces extraterrestres ont comme animaux familiers des êtres humains qu'ils ont trouvés sur leur planète, dont ils avaient justement échoué totalement à s'arracher, et qui finalement n'avaient pas pu accéder à l'espace, et qui n'y ont accédé que parce que des extraterrestres sont venus les chercher et les ont enlevés. On retrouve un peu cette logique-là. Et c'est au contact des extraterrestres que, peu à peu, ces êtres tout petits et faibles, peu à peu, acquièrent un dynamisme et sont en mesure, eux-mêmes, de prendre leur destin en main, et ainsi de suite. Donc vous avez ce schéma qui revient, qui est à la fois lié à l'idée d'un départ dans l'espace qui est forcé, et l'idée que c'est là qu'on va se réaliser. Et donc cette thématique-là, elle revient régulièrement. Alors, dans le Gambit des étoiles, de Gérard Klein, vous avez clairement aussi cette structure-là, c'est-à-dire que le point de départ, c'est un individu qui ne veut pas partir dans l'espace, il veut uniquement explorer la Terre, il ne veut pas du tout partir dans l'espace. Et c'est pourtant celui-là qui ne veut pas partir dans l'espace, qui est enlevé, forcé à partir, qui devient celui qui va percer le secret de l'univers, en gros, je vais assez vite, et qui perce le secret de l'univers et qui va donner aux êtres humains la clé des étoiles. Et le roman se termine. J'avais prévu, mais je m'aperçois que c'est très difficile de minuter quelque chose comme ça. J'avais prévu de vous lire un passage justement du Gambit des étoiles qui est à la toute fin, dans lequel, en gros, il explique que il est temps que les êtres humains portent vraiment leurs yeux vers les étoiles, en gros. Et donc, ça, c'est en 58. Hein. Donc, il y a eu quand même pas mal de choses. Mais l'idée générale, ça reste cette idée que, oui, l'espace peut être ouvert. Et alors, après, vous avez un roman comme Surface de la planète, qui lui est complètement dans l'autre sens, c'est-à-dire que les êtres humains justement ont échoué à partir dans l'espace et ils se sont enterrés dans un système, et je ne vais pas le détailler, j'aurais eu d'autres choses à dire. Et un roman comme Aux armes d'Ortoc, qui est en 1960, c'est pour moi un roman qui peut un de ceux qui peuvent symboliser le glissement du paradigme vers autre chose, c'est-à-dire que Aux armes d'Ortoc se situe dans un monde dans lequel le voyage spatial est possible, mais la société d'Ortoc, donc le personnage principal, est totalement régressive. C'est la science fantasy, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans un avenir dans lequel il y a des technologies très importantes, mais à cause d'une guerre massive qui a irradié la population humaine, eh bien, les terriens sont devenus, enfin sont revenus à une société médiévalisante, et il faut peu à peu réinculquer aux êtres humains, et c'est aux terriens, c'est ce que fait Hertog, réinculquer le goût de l'espace, le goût du départ dans l'espace et de l'expansion. Et donc le roman se termine sur l'idée que oui, on va pouvoir faire une expansion dans l'espace et à nouveau repeupler l'espace. C'est-à-dire que vous avez vraiment cette logique qui revient de façon assez récurrente. Et alors, quand on passe au paradigme dominant des années 60, on glisse peu à peu, alors il n'y a pas de rupture, hein, on glisse peu à peu vers une autre vision de ce que c'est que de visiter d'autres mondes. C'est la réticence, l'arrachement à la Terre est de moins en moins important. Un roman de 1960 aussi, qui est Le Signe du Chien, est beaucoup plus, lui, orienté vers l'idée de voyage dans l'espace plus tranquille, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez une enquête sur une planète extraterrestre, enfin terrienne, mais vraiment qui a coupé les ponts depuis très longtemps. Enquête qui est à la fois une enquête de type espionnage, on comprend pourquoi un vaisseau spatial a disparu, et en même temps une enquête sociologique, anthropologique, qui cherche à comprendre comment s'organise cette société. Et ce type d'exploration, enfin, et ce type de fonctionnement sur des logiques anthropologiques, sociologiques, fonctionne de plus en plus. Alors je vais écourter un petit peu mes présentations des romans, du coup, j'en suis désolé. Le ressac de l'espace, c'est un récit de premier contact avec une espèce extraterrestre qui vient sur Terre et qui a la partie, mais les terriens maîtrisent quand même en partie le voyage spatial, et cette espèce a pour particularité de vivre en symbiose avec des espèces inférieures, et donc il procède à une opération de symbiose pour s'unir aux humains qui sont donc une espèce inférieure, et les humains sont parfaitement d'accord. Enfin, pour beaucoup d'entre eux, parce qu'en fait, ça procure un plaisir intense d'être en symbiose, et ça permet de créer, de faire des réalisations artistiques extraordinaires, et seuls subsistent face à cette logique extraterrestre les individus qui sont en fait ceux qui aimeraient bien partir dans l'espace. Enfin, cette logique se maintient.
Rappelle-nous des auteurs de...
Alors ça, c'est Philippe Curval, et ça, c'est Jean Augron. C'est vrai qu'on ne les voit pas très nettement. Donc, l'appeler Nathalie Enberg, c'est une épopée de type space opéra, je ne détaille pas particulièrement. Pardon ?
C'est dur à lire, l'appeler.
C'est dur à lire, c'est très. Voilà, ça a une certaine poésie qui est parfois être un peu rude. Alors, juste rapidement sur les Stolz. Une particularité intéressante de ce roman, vous avez un contact, c'est un peu de type espionnage, une invasion. Bon, vous avez des ingrédients de type contact extraterrestre, peut-être un petit peu caricaturaux au départ, sauf que au fur et à mesure que ça évolue, les Stolz, qui sont des extraterrestres envahisseurs, se révèlent être des individus qui ont d'énormes problèmes écologiques dans leur société et qui en fait veulent envahir la Terre pour, en quelque sorte, assainir le destin de leur espèce. Bon, ils feraient peut-être moins ça maintenant, mais en tout cas, c'est leur but à ce moment-là. Et en fait, la solution est trouvée non pas par l'extermination des ennemis ou quoi que ce soit, mais par le fait qu'à un moment donné, les êtres humains arrivent à se mettre autour d'une table avec les Stolz et à s'entendre. Et ils forment le début d'une alliance qui, dans d'autres romans de Louis Thirion, se développe sur d'autres histoires. Et donc, vous avez là un échange culturel, toute une exploration de la société des Stolz qui se développe. Enfin, qui permet de développer des idées. Les hommes-machines contre Gandar, là, vous avez une représentation, je sais pas si... Ah oui, je voulais en parler notamment, et en rapport avec les Seigneurs de la Guerre aussi, pour dire que dans cette exploration-là de l'espace, ça s'accompagne, dans les années 60, aussi d'un... et donc, pour moi, ça fait partie de ce paradigme dominant qui fait voir d'autres sociétés, mais ça s'accompagne d'une importance de la thématique du voyage dans le temps. C'est-à-dire que vous avez quelques romans vraiment, vraiment intéressants, qui intègre le voyage dans le temps, mais ce voyage dans le temps ne donne pas lieu tellement à des réflexions sur des paradoxes temporels ou des problèmes temporels, mais à des affirmations de ce que c'est qu'une bonne société. C'est des moyens d'explorer ce que c'est qu'une bonne société. C'est-à-dire qu'on trouve dans le futur, et par des voyages, des sociétés, des antimodèles, ou des sociétés qui, au contraire, peuvent être des modèles intéressants. Et dans les hommes-machines contre Gandhar, vous avez clairement cette opposition entre deux modèles, un modèle pastoral qui est celui des gens de Gandhar qui vivent en symbiose, donc quelque sorte avec la nature, pour faire vite, et qui sont confrontés à un avenir possible, disons leur avenir, dans une boucle causale un peu étrange, un avenir qui est celui des machines conquérantes. Je ne détaille pas, mais vous avez cette opposition symbolique. Et dans les Seigneurs de la Guerre, oui.
Ouais, je me demandais pourquoi dans toute cette période, celle d'avant et celle-ci, il n'y a pas vraiment de roman qui a émergé au niveau de la science-fiction française. Enfin, autant les Américains, tout ça, c'est les auteurs de cette période-là sont encore mieux réédités et
les auteurs de cette période, les romans que j'ai cités sont quasiment que des romans réédités constamment.
Donc il y a quand même des trucs cultes qui ressortent. Moi je les.
Non mais justement, c'est pour dire, justement, c'est un de mes critères, même si c'est pas le seul. Ce sont des romans qui, normalement, pour beaucoup d'entre eux, certains sont simplement significatifs. Les Sols, c'est significatif, c'est pas tellement réédité. Mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont réédités constamment, actuellement. Et on peut en trouver un certain nombre ici. Mais effectivement, ce qui est sûr, et ça, c'est un autre problème que celui de la présentation et l'explication de ce qui s'écrit, c'est qu'il se trouve que les écrivains français et l'édition de science-fiction française est confrontée à une double contrainte. Une contrainte qui est qu'il faut qu'ils fassent aussi bien, voire mieux que les Américains pour être censément valable. Et l'autre contrainte, c'est qu'il faut qu'ils écrivent comme des Français tout en écrivant comme des Américains. Ça veut dire... Alors ça, cette contrainte-là, elle s'est diluée. C'est-à-dire qu'à l'époque contemporaine, je ne dirais pas que c'est tout à fait ce qui est imposé aux écrivains français. Évidemment, on les compare avec les autres. Mais l'idée qu'il faut qu'ils écrivent d'une certaine manière pour que tous ces débats-là, ils ont disparu. Enfin, disons, ils sont vraiment estompés. Mais effectivement, qu'est-ce qui fait que c'est un classique ? Malheureusement, ça n'est pas un classique au niveau de la science-fiction en général. Ça va être un classique au niveau de la science-fiction française, lue par les amateurs de science-fiction française. Et ça, c'est une complication. Il y a deux niveaux de lecture, enfin de lecteurs, deux cercles de lecteurs.
Et celles qui sont traduites, c'est Klein et Kurvel.
Mais même cette traduction ne leur a pas permis d'atteindre visibilité quelconque. Ils n'ont pas eu de visibilité.
Ce n'est pas
des classiques pour les Américains. Mais il y a très peu de textes. Enfin, et c'est un autre problème qui est corrélé au nôtre, à suite de ce que j'affirme là. C'est que cette science-fiction n'est pas connue. Et une des raisons pour lesquelles elle n'est pas connue, c'est parce qu'elle n'est pas validée aux États-Unis. Et de la même manière, en un sens. Si on ne connaît pas des science-fiction qui sont, par exemple, la science-fiction chinoise, on ne la connaît quasiment pas, je ne sais pas si elle est énorme ou pas, mais il paraît qu'ils écrivent beaucoup. Mais une des raisons pour lesquelles on ne la connaît pas, c'est qu'avant d'arriver chez nous, il faut qu'il soit traduit aux États-Unis, et qu'il soit apprécié aux États-Unis, pour beaucoup d'entre eux. Il faudrait demander à l'auteur de Membrane, là, que j'ai vu aujourd'hui, c'est comment son roman est passé, si d'abord il est passé par une traduction américaine. Mais très souvent, c'est comme ça. Et quelqu'un comme un cas absolument caractéristique de ça...
Olivier de Bonheur.
Hein ?
Olivier de Bonheur.
Non, c'est autre chose. Non, plus historique, parce que là, c'est difficile de commenter l'ultra contemporain. C'est l'auteur de Solaris, excusez-moi.
Lem,
voilà. Saïd Saslem. Eh bien, Saïd Saslem, c'est quelqu'un qui est traduit d'abord aux États-Unis, validé aux États-Unis, et ensuite qui revient. Et d'ailleurs, il est traduit en France, en français, à partir d'une édition américaine mauvaise. Et lui-même dit, mais c'est nul. Il ne fallait pas me traduire comme ça. Enfin bon, donc c'est tout ça pour dire que ce fonctionnement-là, qui est un peu plus fluide maintenant, il est très longtemps extrêmement lourd. Et ce qui veut dire qu'une des raisons pour lesquelles vous n'entendez pas parler, c'est parce que tout simplement, il y a une très faible valorisation de ces auteurs de toute façon. Est-ce que... Par ce système de double valorisation, on valorise d'abord les auteurs français. Alors, normalement, nous sommes à la fin de la chose. Je suis désolé, j'ai commencé un peu tard, en fait. J'ai eu au moins 10 minutes, un quart d'heure de retard pour des raisons diverses. Alors, simplement, rapidement, en quelques minutes, sans détailler particulièrement, et puis... le Paris des années 70, qui est donc un moment de grande vigueur et donc de grande production française, je l'ai regroupé autour de l'idée d'évasion hors de mondes inhospitaliers. Alors, ça veut dire qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous avez des représentations très diverses, vous avez une assez grande variété, mais on n'est quasiment plus dans l'espace. Et quand on est dans l'espace, c'est pas positif. Mais il ne suffirait pas de dire que c'est de la science-fiction pessimiste, parce que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est une science-fiction qui représente des futurs dont on aurait envie de s'évader, en gros. Et de ce point de vue-là, quelqu'un comme Philip Dick, à ce moment-là, acquiert... c'est à ce moment-là qu'il acquiert sa stature en France. Hein. Une dizaine d'années avant de l'acquérir, une quinzaine d'années avant d'acquérir aux États-Unis. Mais il n'empêche qu'avant 1970 et avant Ubik, eh ben, il était apprécié, mais ce n'était pas une référence absolue. Et de ce point de vue-là, Michel Jury, j'estime que c'est un individu qui a beaucoup fait pour la validation de Dick. C'est-à-dire que Dick, valait en lui-même, hein, il a été apprécié. Mais Jury a renforcé cette validation de Dick parce que il a traité des thématiques proches sans les traiter tout à fait, et en gros, d'une certaine façon, il a montré que c'était quelque chose dont on pouvait s'emparer tout en étant un écrivain français. Et donc, il y a eu à la fois cette idée que Dick c'était une très bonne référence, parmi d'autres, mais une très bonne référence, et en même temps l'idée qu'on pouvait faire du Dick en étant français. C'était un problème, vous parlez de la double contrainte, comment écrire à la fois américain et français. Enfin, finalement, si on fait quelque chose de dickien, on est très français, puisqu'à cette époque-là, les Américains ne font pas du Dick. D'une certaine façon. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il n'ait jamais fait du Dick à proprement parler. Alors on peut éventuellement le dire un peu pour certains auteurs français, mais pas les seuls. Et vous avez une très grande importance de la littérature dystopique au sens très, très fort du terme, c'est-à-dire la représentation de sociétés qui sont utopiques uniquement si on est schizophrène. C'est un peu ma propre définition là improvisée, mais en gros, c'est une société dans laquelle on est heureux si on est schizophrène. C'est-à-dire si on ne se rend pas compte à quel point on est en fait écrasé par le système. Ce sont des sociétés, et ça c'est très important, dans les années 77 à 80, en gros, vous avez énormément de textes sur cette chose-là, qui creusent cette idée-là, et qui représentent du coup une évasion impossible. Et donc on est clairement dans une évasion, voilà, il y a une pression, une tension, et on doit s'évader. Alors, 1980-1990, je ne détaille pas. J'appelle ça l'épuisement du futur. Alors, ça y est, l'épuisement du futur avec la Compagnie des Glaces, hein, ce qui est quand même une série que je vous recommande, qui est très, très, très intéressante. Mais elle commence justement sur une prémisse qui est que, en gros, il y a pas de futur, quoi. On est coincé dans la glace, on est coincé sur des rails et on est écrasé de tous côtés. Et alors, peu à peu, justement, il évolue vers un paradigme qui est beaucoup plus celui de l'aventure. Pendant très longtemps, ces personnages tournent en rond sur la glace et sont très peu. Bon. Alors. Et vous avez donc toute une esthétisation finalement de la science-fiction qui passe à la fois par la plume d'un Brussolo ou la plume d'un Volodine ou le groupe Limite, toute une esthétisation qui porte l'écriture de la science-fiction à des degrés particuliers, enfin qui sont fascinants pour plein de raisons. Vous avez une poésie de la science-fiction qui se fait en quelque sorte là-dessus. Mais le problème, c'est que là aussi, c'est nos futurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accumuler de choses là-dessus. Et donc, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont perçu ça vraiment comme une sorte d'impasse. D'ailleurs, un Roland Wagner a critiqué énormément cette tendance-là, alors qu'il s'est inscrit nettement dans cette tendance-là au début. Hein, justement, il en est revenu là-dessus. Donc, je ne détaille pas, désolé, c'est un peu un ratage de ma part, j'aurais dû couper au début. 90-2000. Alors, retour vers le futur, c'est pas un très bon terme, je trouve mieux, mais l'idée c'est qu'on revient vers un élan de création et justement vers une accumulation. Et ça passe par deux choses. Ça passe par une critique en fait, une relecture de la modalité cyberpunk qui n'avait pas du tout marché, qui s'est pas du tout transposé en France. Hein. Vous avez quelques textes, mais vous n'avez pas du tout de cyberpunk français. Mais vous avez des romans, il y a des romans qui sont cyberpunk, mais ils sont tardifs. C'est-à-dire que vous avez des romans comme Inner City, que je n'ai pas mis là, mais de Jean Martini, ou Faust, que j'ai mis là, au contraire, de Lehmann, qui, oui, représentent du cyberpunk au sens où vous avez des corporations, vous avez des manipulations, des problèmes politiques, mais ce qu'ils présentent, c'est la résistance. Et la résistance face à ça. Et Faust, notamment, c'est quand même l'histoire d'un groupe de résistance à l'influence des corporations. C'est-à-dire que là où le cyberpunk présentait un monde justement très noir, enfin le cyberpunk, disons, le stéréotype, la concentration du cyberpunk présente un monde très noir, eh bien, il y a ça. Et justement, Roland Wagner, qui lui-même prend donc une grande distance vis-à-vis de ses premiers textes qui étaient très pessimistes et très bloqués, eh bien, commence un grand cycle qui est le cycle de, des futurs mystères de Paris, dans lequel le point de départ, c'est un contre-pied total par rapport au cyberpunk. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance noire dans le cyberpunk, il fait de l'humour. Vous avez des corporations toutes puissantes, ils montrent des corporations qui sont effectivement méchantes, mais assez ridicules et impuissantes. Vous avez, enfin, il déconstruit peu à peu, enfin, je ne vais pas détailler, bon, il déconstruit les représentations du cyberpunk pour créer un futur qui devient un futur optimiste. Et donc vous avez cet optimisme-là qui s'installe dans la plupart des textes de façon un peu particulière, avec un retour, donc ça c'est le deuxième angle, donc contre le cyberpunk, comme je disais, et ou avec le cyberpunk, mais en lui donnant un sens plus positif, et le retour au space opéra. Mais sans faire ce qu'on a appelé du nouveau space opéra, à proprement parler, à l'américaine, ou à l'anglaise plutôt, puisque c'est très anglais, mais en faisant justement, bah, pour le coup, un space opéra français. Donc là, Le Chant du Cosmos, Aucune étoile si lointaine, Étoile mourante, sont des romans de référence là-dessus. Une porte sur les terres, j'aime bien aussi. Et je ne vais pas avoir le temps d'en parler spécialement, mais j'aime beaucoup ce que fait Laurent Jeunefort pour toutes ces raisons. Et clairement, Laurent Jeunefort, c'est quelqu'un qui s'inscrit au départ dans ce paradigme-là. C'est-à-dire qu'il essaye un peu de faire du pessimiste au début, et puis bah, globalement, quand même, il a la passion de l'aventure, et ce qu'il présente, c'est clairement des aventures qui n'ont cessé de se développer. Et alors, pour terminer, le paradigme. Ça serait difficile de parler d'un paradigme dominant actuel, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est trop près, et d'autre part parce que je ne sais pas encore exactement comment évaluer, comment intégrer à mon propre système le fait qu'il y ait une telle concurrence et telle proximité en même temps des différentes littératures qu'on dit littérature de l'imaginaire, tout ce qui est donc fantasy et assimilé. C'est-à-dire que pour moi, ça fonctionne sur un plan très différent du point de vue de l'écriture et du rapport à la réalité. Et pourtant, il y a des hybridations et des rencontres très importantes à de très nombreux niveaux. Et donc, c'est ce que j'ai essayé d'appeler intrication des particules imaginaires, c'est-à-dire qu'on n'écrit plus, en France en tout cas, parce qu'on n'a jamais vraiment beaucoup écrit de hard science en France. Par exemple, vous n'avez pas, j'ai pas cité de choses dans ce que j'ai cité, il n'y a pas de choses qu'on pourrait dire clairement c'est de la hard science, par exemple. Même les auteurs les plus intéressés par la science font un peu autre chose. Ils ne font pas du Kim Stanley Robinson, par exemple. Et donc, ça fait qu'on fait d'autres choses, notamment l'Uchronie, ou le mélange d'ensemble de choses. L'Uchronie est très importante depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Et vous avez, alors, là, vous avez des structures qui sont aussi des structures de science-fantasy. Au Mal de Jeunefort, clairement, vous êtes dans une logique très science-fantasy. Et en même temps, ce n'est pas du tout science-fantasy au sens qu'on pouvait employer avant. C'est clairement... la représentation du progrès technique à partir d'un monde qui a régressé, et progressivement il établit, il n'est pas du tout dans le mysticisme de la science. C'est ça que je veux dire. C'est là où la science fantasy a tendance un petit peu à jouer un peu avec tout, lui il n'est pas du tout dans le mysticisme de la science. Au contraire, il est dans la déconstruction de ce mysticisme, mais il en joue quand même au départ. Bon, un roman comme Pollen, bon, je ne vais pas détailler, Dream Americana, qui joue beaucoup avec les structures de réalité, mais qui le fait dans un paradigme qui n'est plus tellement un paradigme de Dick, de type « mais dans quelle réalité vivons-nous » mais beaucoup, donc Dream Americana, c'est un roman sur l'écriture d'un roman, qui en même temps est adapté par Stanley Kubrick. Et le roman étant vécu par la personne qui le vit, enfin qui l'écrit. Bon, et donc, ce que je ne veux pas raconter l'histoire, bien sûr, en tant que telle, mais c'est pour dire que justement, le but, ça n'est pas de raconter simplement une histoire, c'est de créer un effet particulier qui va être un effet de brouillage. Et ce brouillage-là, c'est peut-être ça que je pourrais mettre aussi, le brouillage, l'idée de brouillage, c'est vous avez une espèce de brouillage qui n'est pas postmoderne, le terme postmoderne, de toute façon, est difficile à utiliser, qui n'est pas exactement postmoderne, mais qui est une manière de mélanger les pistes. Et le simple fait que je mette la Horde du Contrevent, par exemple, dans une exposition sur la science-fiction, montre que nous sommes dans le brouillage. Ce roman n'est pas un roman de science-fiction. Et pourtant, il est perçu comme un roman de science-fiction par la plupart de ses lecteurs. Alors, j'ai peut-être tort, mais ce n'est pas pour moi un roman de science-fiction. Pourtant, je l'intègre. C'est-à-dire que c'est un roman dans lequel vous avez une certaine vision d'une planète, un environnement. Mais c'est un roman philosophique, c'est un conte philosophique, c'est un ensemble, c'est un monde de fantasy globalement. Ce n'est pas un monde scientifique. Plus généralement, c'est un monde qui fait une science parallèle. Mais c'est révélateur d'une chose, c'est que lorsque les écrivains font de la fantasy actuellement, ils la font pour beaucoup en reprenant des mécanismes d'écriture qui sont des mécanismes de la science-fiction. C'est-à-dire que l'échange va dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement des oripeaux de la fantasy ou des éléments qui sont repris par la science-fiction. Vous avez une tendance à, chez les auteurs de fantasy, surtout français d'ailleurs, à reprendre des choses. Et quand vous avez un roman comme Harry Potter, enfin des romans comme Harry Potter, la série d'Harry Potter, elle fonctionne énormément sur des mécanismes de science-fiction avec une société, des structures, une espèce de génétique de la magie. Enfin, vous retrouvez des choses comme ça. Donc vous avez des structures uchroniques, toutes sortes de choses. Je ne vais pas détailler, j'en avais mis beaucoup là pour montrer qu'il y en avait beaucoup et vous inciter à aller les lire, mais ce n'était pas pour en faire une liste à proprement parler. Et donc vous avez aussi, par exemple avec le Malkin, et ce n'est pas le seul, un retour à l'espace. Rêve de gloire, qui est quand même la l'uchronie la plus massive, la mieux écrite qu'on ait en France, à mon sens, n'est quand même que l'expression d'un mouvement uchronique qui est bien antérieur. Wagner réinvente pas le genre à proprement parler, il réinvente son écriture, mais globalement, l'idée de l'uchronie, elle est prégnante, très importante. Et pour moi, elle mélange justement un petit peu, c'est un peu une rencontre aussi avec la logique de fantasy, c'est-à-dire qu'il y a, j'aurais tendance à dire que la fantasy est en grande partie, pour beaucoup, une idéologie, enfin pas une idéologie, mais un rapport au monde qui est assez régressif, et ce rapport régressif, on le retrouve en partie dans l'uchronie. Dans l'idée que, oui, on peut réécrire le passé, que oui, on peut revenir en arrière. Mais bon, ça n'est pas... l'idée de régression n'est pas négative, de ma part. C'est simplement que c'est un mouvement qui n'est pas le mouvement du progrès, de l'élan vers quelque chose qui va s'accumuler, qui est celui au départ de la science-fiction. Et pourtant, ça reste de la science-fiction. Enfin, je ne vais pas faire des critiques... voilà. Et bon, vous avez... aussi, alors avec je finis sur L'origine des victoires, donc un roman réédité d'Hugo Bellagamba que je vous recommande par ailleurs, mais c'est un peu pareil que pour Analyse de Lady Star dans un genre d'écriture très différent. Vous avez aussi cette tendance dans les écrits relativement récents à beaucoup travailler sur l'idée de récit. Je parlais tout à l'heure de Dreamericana qui est un roman qui, bon voilà, bah, pour Anamnèse de Lady Star, pour L'origine des victoires, vous avez énormément de travail sur ce que c'est qu'un récit, ce que c'est qu'une manière de travailler le mythe, et on revient à l'idée, on retrouve des préoccupations dans la science-fiction française, qui sont des préoccupations de type qu'est-ce que c'est qu'un bon récit, et qu'est-ce que c'est que raconter une histoire, et en quoi raconter une histoire a-t-il une influence sur notre perception de la réalité, sur la perception, sur notre engagement, enfin, sur toutes sortes de thématiques. C'est-à-dire que, ce n'est qu'une suggestion, c'est trop proche pour que je sois vraiment définitif sur la question, mais clairement, c'est un type d'écriture qui lorgne vers des auteurs qui sont des auteurs plus mainstream qui lorgne vers du Pynchon, qui lorgne vers une écriture, pour le coup, c'est sur une logique un peu postmoderne, mais c'est-à-dire sur une façon de réfléchir à l'écriture tout en écrivant, enfin, ce genre de choses. Et ça, au départ, on est loin de l'appel de l'espace. Tout ça, c'est le résultat d'une évolution particulière et d'un bain culturel beaucoup plus large que je ne pouvais pas vraiment évoquer. Bien. Bon, je vais arrêter là. Déjà, j'ai rattrapé mon quart d'heure. Je suis désolé pour ceux qui doivent avoir faim et fatigués. Mais voilà, je vais arrêter ici. Bon, si vous avez des questions, si quelqu'un a une question immédiatement, je peux en parler rapidement.
Je suis un peu étonné de faire partir la science-fiction aussi tardivement, en fait. Parce qu'il y a quand même des textes qui me paraissent être un peu science-fiction, comme Voltaire, par exemple, ou même Thomas More.
Ah, tardivement en tant que tradition
je sais bien que c'était un science-fiction et. Nettement postérieur, c'est le cas, mais on est déjà dans la thématique de...
Alors, j'ai déjà passé finalement trop de temps dans l'équilibre de mon exposé à vous parler de ce qui s'est passé avant 1950 dans ma logique. J'étais parti du principe que je ne vous parlerai pas de tout ce qu'il y avait avant. Mais on peut tout à fait faire partir, quand je parle de la tradition de ceci, cela, la faire démarrer à Verne, c'est arbitraire, bien sûr. Mais il faut bien choisir un point de départ à un moment donné. Et sinon, on repart de Gilgamesh. D'ailleurs, il y a un roman de Silverberg, Gilgamesh, qui est très bien.
Ah, Cyrano de Bergerac, c'est
un peu anecdotique. L'aspect science-fiction de ce qui se fait avant, c'était pas clair.
Je sais pas, moi, Thomas More,
on peut en débattre.
Thomas More a quand même.
Alors,
créer une ville.
En fait, il y a deux manières d'aborder le problème. Il y a la manière qui consiste à dire j'identifie dans la littérature contemporaine des choses et je me demande d'où ça vient. Et là, on voit plein de prolongements dans le passé où on va trouver des choses qui ont peu à peu servi à accumuler et qui servent de matériaux maintenant. Tout à fait. Et il y a l'autre manière qui consiste à partir du début en disant bon, bah alors, on avance avec son petit curseur. Et dès qu'on trouve quelque chose qui rappelle ce qu'on a déjà vu, on l'annexe. C'est ce que fait Pierre Versin. C'est-à-dire, il avance, et puis là, il y a de la science-fiction, Gilgamesh, on parle d'une plante qui donne l'immortalité. Ça y est, c'est ça, ce passage-là, il ne dit pas Gilgamesh c'est la science-fiction, il dit ce passage-là c'est de la science-fiction. C'est-à-dire, c'est de la conjecture. Et ensuite, il avance. Le truc, c'est que la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire que c'est important ou pas ? En fait, moi, mon critère, mais qui n'est pas le seul, hein. Mon critère, ce qui fait que je vous ai exposé ce que j'ai exposé, c'est à quel moment est-ce que des individus sont ou non conscients de faire partie d'une tradition d'écriture. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'écrire de la science-fiction pour moi ? Écrire de la science-fiction pour moi, c'est vouloir en écrire. Et pour pouvoir vouloir en écrire, il faut pouvoir identifier ce que c'est. Et pour moi, les deux traditions dont je parlais, là, la seule qui vraiment commence à écrire de la science-fiction et se dit « Tiens, reprenons des thèmes, reprenons des choses, construisons à partir des autres », ce qui pour moi est essentiel pour la science-fiction, c'est quelque chose qui s'agglomère à partir d'éléments déjà connus, mais qui s'agglomère dans l'écriture des pulps, Gernsback et compagnie. Et il y a des choses, et c'est pour ça la tradition française, enfin anglo-française dont je parlais, clairement fait un terreau intéressant pour l'écriture, et on peut tout à fait... Moi, ça ne me dérange pas qu'on dise que c'est de la science-fiction. Je ne vais pas me battre sur les étiquettes. Mais cette tradition-là, elle fonctionne très différemment parce que, notamment, personne ne dit, ou ça ne marche pas, parce que quand Renard dit « Je fais du merveilleux scientifique, nous faisons du merveilleux scientifique, allons-y, écrivons du merveilleux scientifique », donc ce qu'il dit en 1908 ou quelque chose comme ça, eh bien, personne ne fait de merveilleux scientifique après. Et il y a même des gens comme Ronny pour dire « Non mais bon, moi je ne fais pas de merveilleux scientifique, hein, moi c'est pas mon truc ça. » Et c'est-à-dire que il n'y a pas cet effet d'identification. Et donc c'est encore plus le cas pour Thomas More. Oui. Ce que Thomas More fait, c'est quelque chose qui sera très utile dans une logique conjecturale et qui fait partie d'une logique conjecturale au sens large. Mais disons, le mentionner pour dire « Sans Thomas More, il n'y aurait pas de science-fiction », bon, c'est trop loin pour moi. Voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est l'effet collectif de l'écriture de la science-fiction et écriture et lecture. Voilà, bon. Mais effectivement, oui, on peut mentionner ça, tout à fait, ça, c'est logique.
Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a fait que les auteurs français...
Par ailleurs, je vous rappelle que j'ai écrit un livre sur les questions, si jamais, voilà, si ça vous intéresse.
C'est ce que vous abordez dans votre...
Hein, pardon ?
C'est ce que vous abordez dans votre livre ?
Oui, alors j'aborde beaucoup moins les périodes contemporaines pour être honnête. Hein. Donc j'ai surtout travaillé jusqu'en 1980 hein, et je donne des éléments sur après, mais c'est surtout 50-80. Mais j'aborde la question de pourquoi c'est pas de la science-fiction et les autres choses. Voilà. Bon. Oui, vous aviez une question. Enfin, on peut commencer à y aller.
Est-ce qu'il y a une raison qui a fait que les auteurs français avaient peur du plagiat et qui n'utilisaient pas les autres idées, qui sont limités Claude, parce que finalement, dans le passé, certains auteurs avaient pris l'habitude de traduire des textes et de prendre des libertés avec le texte pour faire passer des choses pour eux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a provoqué ça ?
Alors, en fait, non. Alors, ça fonctionne à deux niveaux. C'est que si vous êtes dans une édition qui est une édition populaire ou une édition un peu masquée, où on peut avancer masqué, on peut le faire sans que personne ne repère quoi que ce soit. Mais ce n'est pas pour autant que les gens, s'ils s'en rendent compte,